chers frères, pasteurs, enseignants, anciens agents de la Ligue, et j'en passe, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis c'est un plaisir de t'accueillir, que tu sois parmi nous, et que tu apportes la parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Sois béni.
Merci mon frère, et bonjour à tous. Comme disait Reinhard Bonnke, nous ne sommes pas là pour délivrer des messages, mais pour délivrer des personnes qui ont besoin d'être délivrées. Et nous en avons tous besoin, plus ou moins, quelque part. Enfin, ça n'empêche pas qu'on délivre un message, hein, mais on veut surtout délivrer des gens. Voilà. J'ai intitulé ce message « La nouveauté maintenant ». La nouveauté aujourd'hui. On va lire peut-être juste deux versets. Ça marche le bimer, oui. En préalable, qui ne sont pas directement en contenu pour le message, mais voilà. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, ah non, ça c'est dans les Hébreux, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, c'est au psaume 95, si vous... Oui, en disant dans David, longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et puis un autre verset aussi, où l'apôtre Paul dit, oui, c'était juste, hein, juste avant. Oui, il y a 2 Corinthiens 5, oui. Sinon, je le dis comme ça, l'apôtre Paul dit, puisque nous travaillons ensemble, d'un seul cœur, etc., il dit, eh bien, c'est aujourd'hui, oui, voilà, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, inutilement, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Ça, c'est une parole qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Pas demain, pas hier, aujourd'hui, maintenant. Ô Seigneur, c'est une merveille d'être avec toi. Je te loue parce que j'ai l'impression que depuis le début de cette année, tu me rafraîchis, et je pense que c'est la même chose pour plusieurs dans ton Église sur la terre. Loué sois-tu, Seigneur, notre Dieu, béni sois-tu. Oh, nous aimons être avec toi comme on vient de le chanter. Ce merveilleux dernier chant où nous demandons d'être avec toi. Nous nous abandonnons nous-mêmes pour être tous les jours avec toi, car toi, tu es tous les jours avec nous. Loué sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Oui, alors, nous aspirons à de la nouveauté. Hein. C'était un peu le thème du message de Christophe il y a 2 semaines. Chercher la nouveauté, vouloir la nouveauté, mais attention, pas n'importe laquelle. Mais quelque chose de nouveau, non seulement de rafraîchissant, juste pas pour qu'on soit juste bien, mais véritablement parce que c'est nouveau et parce que c'est nécessaire pour le monde. Qu'est-ce qui est nouveau ? Christophe avait rappelé cette parole de l'Ecclésiaste qui dit « Vanité des vanités, tout est vanité, tout est petite vapeur, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » On pourrait se dire, mais comment est-ce que la Bible peut dire ça? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Oui, il y a du nouveau. Mais quand l'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, est-ce qu'il dit vrai ou est-ce qu'il dit faux? Qu'est-ce que vous croyez? Vous dites qu'il dit vrai parce que c'est dans la Bible, mais pas forcément. Moi, je dirais oui et non, oui et non. Il dit, si on se met à l'intérieur de l'optique du monde, si on ne regarde que le monde, si on raisonne avec notre intelligence, qui est l'intelligence du monde, bien sûr, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a cette guerre en Ukraine qui nous fait mal au cœur parce que nous aimons ce peuple et nous aimons aussi les Russes, entre parenthèses. Et c'est terrible de voir cette guerre injuste quand même. Il faut reconnaître que la victime, c'est l'Ukraine, ce n'est pas la Russie. Enfin bref, mais ce n'est pas mon propos. Parce qu'on a des télévisions, on a des journaux, on a de la radio pour ça. Donc ils nous renseignent, il n'y a qu'à écouter. Et c'est très important. Et surtout, il faut prier. Surtout, il faut prier. Effectivement, pas gloire à l'Ukraine. Ça, il est bien le président, là, je crois, de l'Ukraine, mais... Là, sa langue, elle est un peu fourchée. Il voudrait mieux dire gloire au Seigneur, hein, comme a rappelé François. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant, parce que la guerre, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est vieux comme le monde. C'est vraiment vieux comme... C'est éculé, la guerre. Franchement. Le péché aussi, c'est vieux, hein. Ce n'est pas nouveau du tout. La prostitution, on dit que c'est le plus vieux métier du monde. C'est vous dire, ce n'est pas nouveau. Hein. Toutes ces choses-là, c'est du vieux. Mais si nous considérons les choses à partir de la parole de Dieu, à partir de ce que Dieu fait, avec une ouverture de notre esprit à son esprit, alors là, nous allons voir du nouveau. Et là, l'Ecclésiaste ne dit pas la vérité à ce point de vue-là. Du ce point de vue-là, l'Ecclésiaste ne dit pas la vérité parce qu'il y a du nouveau. On pourrait déjà voir quelque chose de neuf au moment où Dieu met en marche des hommes comme Abraham, qui doit quitter son pays pour aller voir dans un autre parce qu'il y a des promesses qui l'attendent. Des promesses inouïes pour un homme âgé qui a une femme stérile, qui quitte son pays avec juste quelques serviteurs et qui obtient des promesses universelles, que tous les peuples, toutes les nations seront bénies de sa postérité. C'est quand même un peu nouveau. Et la même chose pour Isaac, la même chose pour Jacob. Ces trois patriarches, fils du fils du fils, introduisent, ce n'est pas de leur faute, c'est le Seigneur qui fait ça, quelque chose de nouveau. Mais après, il y a toute l'histoire d'Israël, il y a des choses vieilles, il y a des choses éculées, il y a des choses tristes et malheureuses, mais il y a aussi des choses merveilleuses. C'est aussi le peuple des prophètes, c'est aussi la révélation de l'amour de Dieu. Et ils arrivent, finalement, on arrive à Jésus-Christ. Parce qu'avec Jésus, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Et on pourrait prendre, par exemple, un jour, il y a un jeune prophète, un jeune, on ne peut pas l'appeler rabbin, il n'était pas vraiment rabbin officiellement, mais on peut dire un jeune homme de Dieu qui va... comme tous les Shabbats, dans le lieu de prière de son village, et comme les Juifs pieux le faisaient aussi pour prier. Et bon, il s'est quand même passé des choses. Hein. Il vient là, pas tout à fait comme d'habitude. Il y venait chaque fois, je parle de Jésus, vous avez compris, hein. Il y venait chaque fois avec piété, avec attente. Mais là, il a été extraordinairement... Enfin, il a été baptisé par Jean-Baptiste, comme beaucoup de Juifs. Il n'y avait rien d'extraordinaire à certains égards. Bon, Et puis, ensuite, il a 40 jours au désert de jeûne, de solitude, d'écoute de Dieu, de prière... Et après cette épreuve qu'il a gagnée, Satan n'a rien pu faire contre lui, rien. C'est lui qui a gagné la partie. Il entre à Nazareth, dans la synagogue de Nazareth. Bon, il s'assied dans la foule. Il y a un servant qui lui amène. Enfin, il semble que c'est Jésus qui a pris l'initiative parce qu'il avait quelque chose à leur dire. On pouvait, hein, à l'époque, on pouvait se lever dans une synagogue, les hommes en tout cas, et puis s'ils avaient quelque chose à dire, ils pouvaient le dire. Alors, on leur tendait un rouleau, puisque ce n'était pas des livres, mais des rouleaux. Et là, le servant, lui, c'était probablement prévu par la liturgie du jour, il lui tend le livre, le rouleau d'Ésaïe. Bon, d'accord. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, oui, on pourrait même lire le texte. Tu pourrais mettre, oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, ben tant pis, on va sauter ça. Tu prends le suivant. Pardon? Oui, oui, d'accord, mais j'aurais pu le citer, mais tant pis, laisse tomber. Prends le suivant. C'était le texte avec lequel Christophe avait ouvert son message il y a 2 semaines. Hein. Il va y avoir des choses nouvelles et vous ne connaîtrez pas ces choses-là, vous ne voulez pas les connaître, des choses nouvelles. Vraiment qui vont, des choses nouvelles, vraiment. Alors, ces choses nouvelles, ben voilà, elles commencent. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour parce qu'il avait dit, il s'était déjà passé quelque chose d'étonnant. Il étonnait les gens qui le regardaient et l'écoutaient. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rend à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Intéressant. C'est lui qui trouve l'endroit. Moi, c'est pas dit clairement dans la Bible, mais moi je crois que Jésus, il a pris le rouleau qu'on lui a tendu, il a déroulé et il a cherché un endroit précis. Il n'a pas cherché comme un gars stressé qui se dise « Ouh là là, il faut que je donne un message, voyons, qu'est-ce que je vais dire ? Oui, dans quel livre est-ce que je vais ? Attends, quel chapitre, voyons ? » Et puis il commence à paniquer comme ça, à trembler parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il va dire. Jésus sait très bien ce qu'il va dire. Il trouva l'endroit où il était, on peut remettre là, où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, de faveur de la part du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Bon, ce texte avait été lu bien des fois dans les synagogues et dans celle-ci aussi. Et les gens écoutaient ça d'une oreille. Oui, on connaît. Oui, oui, oui. C'est une prophétie un peu étonnante, mais bon. Et voilà que... On peut remettre encore le texte. Et voilà que... Le suivant, voilà. Les regards de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient fixés sur lui. Comment ça se fait? Alors il commença à leur dire, écoutez bien ça, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, Ésaïe 61, versets 1 à 2, que vous venez d'entendre est accompli. Il y a quelque chose dans la parole de Jésus qui fait que tout le monde dans cette synagogue est convaincu qu'en effet, aujourd'hui, cette parole est accomplie et qu'il va se passer quelque chose. Il y a du nouveau. Jusque-là, c'était tranquille. Hein ? La synagogue, tous les Shabbats, on chantait des psaumes, on lisait des textes, il y avait un gars qui donnait quelques mots de message, d'accord, les gens s'endormaient plus ou moins. D'autres étaient quand même réveillés, mais bon, c'était là un peu la routine, hein, d'une église qui... Voilà. Et tout d'un coup, un jeune homme d'à peine 30 ans se lève, dit « J'ai quelque chose à dire », on lui donne le livre d'Ésaïe, il trouve exactement ce qu'il veut dire. Une des seules prophéties, pour ne pas dire la seule, mais je n'oserais pas dire que c'est la seule, mais c'est une des rares prophéties de l'Ancien Testament à la première personne du singulier. D'habitude, les prophéties, elles sont en vous, ou bien le Seigneur dit, etc. C'est comme ça. Celle-ci, non. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Certains vont dire, ben ça, il n'est pas modeste, le gars. Mais c'était la vérité. C'est ça le problème. Ce n'est pas une question de modestie ou de vanité. C'était la vérité. L'Esprit du Seigneur était véritablement sur Jésus de Nazareth. Il avait été manifesté lors de son baptême dans les eaux du Jourdain sous la forme corporelle d'une colombe qui descend sur lui. Et puis la voix de Dieu avait parlé. Et Jésus, qui était déjà au courant, moi je crois que Jésus, pour qu'il tombe sur cette prophétie, c'est que pendant 20 ans au moins, ça veut dire à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à 30 ans, on peut dire, il a dû chercher dans les Écritures. Il sentait bien qu'il avait un appel, il sentait bien que Dieu était là en lui, mais il ne savait pas exactement, il a dû chercher, c'était quoi cet appel ? C'était à quoi qu'il était appelé à être et à faire ? Et il a découvert pendant ces 20 années, je dis 20, hein, c'est approximatif, il a découvert qui il était, il a découvert que son appel c'était d'être le Messie. Le oint de Dieu, le Messie, c'était pas évident. C'était pas inscrit sur son front à sa naissance. Ses parents avaient bien vu qu'il y avait quelque chose de spécial avec cet enfant, mais pas plus. Et les gens du village, oui, c'est un chic garçon. On dirait qu'il pêche jamais. On dirait qu'il fait tout bien. Oui, ça c'était un peu étonnant, mais voilà, pas plus que ça, quoi. Et puis voilà que là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Ça, c'était typiquement hébreu, hein. On oignait, bon, d'huile, c'était de l'huile. Dans l'Ancien Testament, c'est pas autre chose que de l'huile. Oui, merci beaucoup, ça va, je crois, mais merci. C'était de l'huile. Mais là, c'est nouveau, ça. L'Éternel, le Seigneur lui-même, pas un homme, personne n'a oint Jésus. Mais Dieu, oui, l'a fait. Dieu l'a fait. Il a oint. Il y avait déjà des hommes qui avaient été remarquables. Si vous regardez Élie, par exemple, Élie, qui est enlevé au ciel sans mourir. Élie n'est jamais mort. Bon, c'est quand même pas tous les jours. Hein. Et puis il était enlevé dans une cavalerie de feu. Bon, le fait qu'il n'ait pas passé par la mort montre qu'il est inférieur à Jésus. Parce que pour être le sauveur d'Israël, il ne suffit pas de monter avec des chevaux de feu dans le ciel. Il faut d'abord passer par la mort de la croix. Et Jésus a passé par la mort de la croix. C'était impossible qu'il ressuscite s'il ne commençait pas d'abord par mourir sur la croix à la place des pécheurs. Que nous sommes tous, les milliards d'habitants de la planète, il a pris notre place en rançon. Bon, on sait. Et puis, il est ressuscité. Alors, entre parenthèses, s'il y a du nouveau, c'est pas seulement ce que Jésus a lu dans la synagogue avec un programme en 6 points. S'il y a du nouveau, c'est que Jésus est ressuscité. Des morts sortis de la tombe. Mais pas pareil que quand il y est entré, avec un corps nouveau. sans l'aide de personne. Il n'y a aucun homme qui a déclaré quelque chose. « Au nom du Dieu d'Israël, je te commande de sortir de ce tombeau. » Personne. Personne. C'est une initiative de Dieu dans le secret. Et le troisième jour, Jésus était dehors. On ne sait pas comment ça s'est fait, mais il était dans un corps nouveau, qu'on pouvait quand même reconnaître, mais qui était d'une autre nature, qui n'allait plus jamais mourir. Les ressuscités, on parle des évangiles ou les actes des apôtres, ils sont morts quand même une deuxième fois. Mais pas Jésus, il ne meurt plus. Donc, ça, c'est du nouveau. Alors, vous direz, oui, c'est nouveau, mais on le sait depuis longtemps. Alors, d'accord, mais il faut toujours rappeler et s'émerveiller de ce que ça, c'est du nouveau. Les actualités, les téléjournaux ne vont jamais rien vous donner de nouveau, sauf s'ils empruntent leurs écrits ou leurs paroles dans la Bible, mais plus encore par l'Esprit Saint. Ça, si c'était le cas, bon, ça serait nouveau. Mais sinon, il ne faut pas chercher du nouveau là-dedans. Alors, même si nous connaissons, je suppose qu'ici, presque tout le monde connaît déjà cette nouveauté-là, mais le problème, c'est qu'elle n'apparaît pas à beaucoup comme quelque chose de foncièrement neuf. Il faut le dire. Parce que si c'était le cas, oh là là, il se passerait les mêmes choses que quand Jésus était en Judée ou en Galilée. Il se passerait les mêmes choses que dans les actes des apôtres. Quand je dis même chose, je ne veux pas dire que c'était à l'identique, pas forcément, mais le même genre de choses, avec la même puissance de l'esprit. Ça vous fait quelque chose quand je dis ça, ou bien vous mâchez du chewing-gum en disant « dans 20 minutes, on sera sorti ». Non, mais je dis sérieusement, hein. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Moi, ça me fait quelque chose. Et je pense qu'à certains d'entre vous, ça fait quelque chose. Ça fait frémir. Ça remue. Il y a quelque chose de nouveau à partir d'aujourd'hui. Remarquez que tous les jours, on peut dire aujourd'hui, donc ça peut être n'importe quel jour, hein. Je ne veux pas dire que c'est uniquement aujourd'hui, 27 février 2022. Je ne veux pas dire que c'est juste uniquement là. Mais tant qu'on peut dire aujourd'hui, le Seigneur peut réaliser, pas seulement en Jésus, une nouveauté qu'on n'avait jamais vue depuis le commencement du monde et comme il n'y en aura plus jusqu'à la fin, mais ce n'est que le début. Quand Jésus est venu la première fois, ça n'est que le début. Et quand il a conféré, vous savez qu'à un moment donné, il a donné cette même mission à ses apôtres. Apôtre veut dire envoyé, et nous sommes finalement tous des envoyés. Il les en a fait des témoins. Et il leur a dit, vous allez maintenant reprendre ce que vous m'avez vu faire. Vous allez reprendre ça, vous allez reprendre ma mission. Vous allez faire ce que moi j'ai fait, vous allez dire ma parole. Bien sûr, vous n'allez pas donner votre vie en rançon sur la croix. Ça, c'était tout à fait spécial, propre à Jésus. Et puis la résurrection, déjà tout de suite maintenant, c'était propre à Jésus. Mais pour le reste, sa parole, le message du royaume, la proclamation du salut, l'enseignement de la parole de Dieu, toutes ces choses, vous le ferez. Chasser des démons, libérer des gens de ces esprits immondes, guérir des malades, même, il a dit, ressusciter des morts. Ces choses que j'ai faites, vous les ferez. Ces choses que j'ai dites, vous les direz. Ça ne sera pas facile pour vous parce que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais heureusement, l'esprit de l'agneau est plus fort que l'esprit du loup. Donc, on peut quand même y aller. Et on va en baver un peu, mais ça sera avec la victoire. Alors ça, c'est extraordinaire. Moi, ça me saisit. Après cette prédication sur la nouveauté, là, il y a 15 jours, j'ai continué, ça a travaillé, et ça travaille depuis pas mal de temps, de toute façon, mais j'ai senti qu'il y avait, que le Seigneur voulait que cette parole que je suis en train de prêcher là, Ésaïe 61, Luc 4, dans la synagogue de Nazareth, il y a quelque chose qui commence aujourd'hui. Pourquoi dire demain ? Demain, c'est de la procrastination, si vous connaissez ce mot. Ça vient d'un mot latin, crasse, qui veut dire demain. Ça veut dire reporter au lendemain ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui, maintenant, la nouveauté. Alors, ça devient nouveau quand ça nous concerne, quand on s'implique. Mais évidemment, on dira, oui, mais attention, s'il faut faire tout le programme, parce que le programme, il était extraordinaire, c'était quoi ? L'Éternel m'a oint, ça c'est pas dans le programme, mais c'est quand même la base. L'Éternel m'a oint, il m'a conféré l'onction du Saint-Esprit pour que je sois le Messie. Bon. Et puis ensuite, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux. Est-ce que les pauvres et les malheureux de Bussigny, Renan, Échalant, Écublanc, etc., est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce qu'ils se précipitent ici parce qu'ils savent qu'une bonne nouvelle est à l'œuvre et qu'on la prêche ? Est-ce qu'ils nous attrapent par le pan de notre manteau en disant « Attendez, partez pas si vite, on a besoin, racontez-nous, c'est quoi votre secret ? Comment ça se fait qu'il se passe quelque chose ? C'est pas comme dans les autres églises. » Alors, je veux pas comparer avec les autres églises, je souhaite tout ça à toutes les églises, on est bien d'accord, hein ? Mais on verrait des choses comme ça, et je crois que c'est tout à fait possible. Simplement, quel est le secret pour que ça devienne possible ? C'est quoi le secret ? Eh bien, c'est que... Ah oui, j'avais pas fini le programme. La bonne nouvelle aux pauvres. Oui, on peut le relire, d'ailleurs. Pourquoi il m'a oint du Saint-Esprit. Pourquoi faire ? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, guérir à tous les niveaux, pas seulement la guérison physique, la guérison intérieure, et puis les démons, délivrer les démons. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers, aux captifs, la liberté. C'est effectivement, ceux qui sont enchaînés par le diable et par des esprits mauvais, ils peuvent être délivrés, et aux prisonniers aussi le salut. Luc, lui, il transforme un peu, il met aux aveugles le recouvrement de la vue. Enfin, en tout cas, il s'agit de choses qui délivrent, qui libèrent, qui rendent la vue, qui donnent le salut. Et finalement, il termine par dire, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il aurait pu, la grâce, c'est aussi la faveur, une année de la faveur de l'Éternel. Cette année, littéralement parlant à ce moment-là, ça voulait dire l'année du jubilé ou une année sabbatique par laquelle les gens endettés, on leur remettait leurs dettes, les gens qui avaient dû vendre leur héritage ancestral parce qu'ils n'avaient plus de quoi payer, on la leur prenait, ils recouvraient de nouveau leur héritage gratuitement, c'était ce qu'on appelait le jubilé. Mais aux années sabbatiques, il y avait aussi la libération des esclaves, ceux qui s'étaient fait esclaves parce qu'ils ne pouvaient plus rembourser leurs dettes et qui avaient vendu eux et leur famille, même les enfants, ils pouvaient repartir libres, etc. Alors, Jésus n'annonce pas simplement ces choses-là. Peut-être qu'il l'a demandé, oui. Mais il annonce surtout une ère nouvelle où nous pourrons vivre tous les jours dans l'esprit du jubilé, où nous pourrons vivre tous les jours dans la mentalité sabbatique, c'est-à-dire libérer, 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 guérir, 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 etc. Annoncer le salut, réjouir les pauvres, relever les malheureux, ressusciter les morts, une ère comme ça. Alors, on n'est pas encore. C'est vrai que ce n'est pas fini, c'est seulement le commencement. Quand Jésus fait ça, dans sa première venue et qu'il envoie ses disciples, c'est seulement un commencement. Ce n'est pas le tout. Ce qui arrive, c'est que ça sera encore beaucoup plus fort quand, à ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur quand il reviendra. Ça sera encore plus nouveau. Mais au moins, déjà, maintenant, nous pouvons le faire. Alors on dira, oui, mais comment ? Oui, mais comment ? Comment ça ? Mais on y croit, mais il faut faire quoi ? Il faut simplement recevoir la même onction que Jésus. Ce n'est pas plus compliqué. Recevoir la même onction que Jésus. Si Jésus lui-même, qui était sans péché et qui était fils de Dieu, a eu besoin de l'onction du Saint-Esprit pour faire ces choses, à combien plus forte raison nous, les pécheurs, pardonnés, d'accord, et régénérés, d'accord, avons-nous besoin du Saint-Esprit pour faire ces choses? Et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais s'arrêter, quand on prêche l'Évangile, à la résurrection à Pâques. C'est tronquer l'Évangile si on s'arrête à Pâques, si on s'arrête à la résurrection. C'est déjà beau, d'accord. On peut déjà annoncer le salut à partir de là. Mais il faut aussi annoncer la Pentecôte. Moi, je suis frappé de voir que dans les petits traités qu'on distribue à l'évangélisation, la plupart des traités, ils s'arrêtent à Pâques. Ils ne parlent même pas de l'ascension de Jésus à la droite de Dieu, qui est quand même la condition pour que le Saint-Esprit vienne sur nous. Et ils ne parlent la plupart du temps pas de la Pentecôte et de la descente du Saint-Esprit sur ceux qui se convertissent. Mais c'est grave. Il y en a quand même un ou deux traités qui le disent, mais très très peu. Mais c'est grave de ne pas le dire. Il faut prêcher la Pentecôte autant que la croix. Nous avons besoin de la même onction, mais pour que cette onction, alors on dira oui, mais l'onction on l'a déjà reçue, plusieurs d'entre nous on est déjà baptisés dans le Saint-Esprit, alors tant mieux, mais si ça ne ferait pas plus d'effet, et je parle autant pour moi, c'est qu'il y a un problème, il y a quand même un problème, parce que ça devrait faire un effet beaucoup plus grand, pas forcément spectaculaire, sur des estrades de stade avec 120 000 personnes qui écoutent, pas forcément comme ça, mais dans la vie courante. Ça devrait nous toucher d'abord dans notre vie au point qu'on n'a plus besoin d'être accablé par la dépression. On est dans la victoire, on marche dans la victoire, on obtient des résultats. Et puis pour notre famille, oh là là, nos familles, hein, ça peut être glorieux, mais ça peut aussi être difficile. Et ces difficultés, nous par cette onction, nous avons la capacité de pardonner même quand l'autre ou les autres de notre entourage nous ont fait du tort ou nous ont humiliés. Et je peux aussi recevoir la capacité, moi, de demander pardon quand c'est moi qui ai fait le mal. Nos familles, le Seigneur veut baptiser dans le Saint-Esprit notre conjoint et nos enfants, garçons et filles, même nos cousins, même nos neveux, même nos petits-enfants. Il y a une bénédiction. Dieu doit nous corriger parfois, ça retombe parfois, comme dit l'Ancien Testament, sur la 2, 3, 4 générations. Ça s'arrête à 4 générations. Mais la grâce, elle va jusqu'à 1000 générations. Et quand on accepte la grâce, quand on s'ouvre à la grâce, c'est gratuit. C'est quand même bête de se priver de quelque chose qui est gratuite et qui est efficace. C'est quand même idiot. Moi, je crois qu'on s'en prive. La preuve, c'est que nos églises, elles sont quand même pas terrible. Elle ne progresse pas beaucoup en nombre, même elle régresse parfois, et elles ne sont pas connues dans le pays comme étant des lieux de vie comme on n'a jamais vu ailleurs, de la nouveauté comme elle n'est pas ailleurs. Moi, je me dis, mais je ne peux plus supporter l'idée qu'on piétine et qu'on fasse du surplace pour ne pas dire qu'on recule. Je ne peux plus supporter cette idée. Il suffit d'ouvrir un petit peu comme un tube, qu'on enlève le bouchon, le couvercle, et on le remplit de ce qu'il doit contenir. Ah, c'est pas compliqué, c'est Dieu qui fait ça, c'est pas nous, c'est Dieu. Il faut juste qu'on ait la foi pour ça. Il faut juste être d'accord. Seigneur, tu peux me changer, alors vas-y. Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Et si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas, je vais me demander pardon. Seigneur, c'est toi qui donnes la foi, mais c'est aussi moi qui la mets en œuvre. Le Seigneur, il donne la foi au début. Enfin, il la donne tout le temps, mais il la donne spécialement au début. C'est comme une chic note. Tac. Puis après, c'est à nous à maintenir cette foi. C'est à nous à dire, oui, Seigneur, je continue, je reste dans la foi, je continue, je marche, comme Pierre qui marchait sur les eaux. Il faisait un pas à la fois et ça marchait. Et au moment où ça n'a plus marché, c'est parce qu'il était impressionné par l'entourage. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est la folie. Non, je continue, je marche sur la parole de Dieu. Je veux, Seigneur, jusqu'à ma mort, jusqu'à la résurrection des morts, je veux marcher de cette manière-là. Et toute l'Église avec nous, toute l'Église, les autres aussi, je vais m'arranger pour les stimuler, pour les enseigner, pour leur prêcher, pour prophétiser, pour guérir, et mon voisin fera la même chose. Mon cher ami Oswirt fera la même chose. Et Daniel et Béatrice feront la même chose. Les Cachins feront la même chose. Etc. Je ne veux pas faire toute la liste. Hein. Pourquoi? Mais parce que c'est gratuit. C'est gratuit. Allons-y. Soyons pas bêtes. Arrêtons de traîner les pieds dans la poussière en disant « Oui, mais ça, c'était au temps de quand Jésus était sur la terre. » Non, c'est encore plus vrai maintenant que Jésus est dans le ciel. Il a dit « C'est avantageux que je m'en aille parce que je vous enverrai l'esprit de vie. Sinon, vous ne le recevrez pas. » Donc, c'était bien sur la terre. On a, avec les 12 et puis Jésus, c'était super. Ils ont peut-être rigolé un petit peu, comme disait Laurent Tavernet tout à l'heure, mais je crois que surtout, ils se sont émerveillés devant la grandeur de Dieu. Mais ça continue maintenant que Jésus est au ciel, c'est encore mieux. Il fallait que Jésus, après avoir donné sa vie sur la croix et ressuscité, remonte vers son Père, parce que c'est de là qu'il déverse, c'est uniquement de là. Jésus n'a jamais baptisé quelqu'un du Saint-Esprit sur la terre. Il ne l'a fait que depuis le ciel. Vous pouvez lire les évangiles, je ne mens pas. Jésus n'a baptisé personne du Saint-Esprit sur la terre, et ni aucun homme. Il l'a fait uniquement depuis le ciel. Mais maintenant, il y est dans le ciel. Et maintenant, nous n'avons pas d'excuses. Et nous pouvons dire, oui, Seigneur, moi, je suis d'accord. Je veux être un membre de la communauté messianique de Bussigny et compagnie, ou ailleurs, peu importe, pour faire le programme messianique. L'Éternel m'a oint, oui, moi aussi, il m'a oint, oui. Moi, le petit Jean-Pierre Besse, assez minable, pas très doué, à beaucoup d'égards, eh bien oui, il m'a oint, ben oui. Et nos amis aussi, vous avez été oint du Saint-Esprit. Alors, on y va. Amen. On va prier. Ô Seigneur, maintenant, ce n'est pas seulement des Juifs qui ont été oints par toi, c'est des non-Juifs, et nous sommes la plupart d'entre nous des anciens païens, avec des ancêtres païens. Mais nous faisons maintenant partie du peuple messianique. Seigneur, ô, nous voulons voir le réveil, pas comme on en parle des fois, comme une espèce de mode qui va durer un ou deux ans, puis c'est fini. Non, nous voulons voir le réveil jusqu'à ton retour. Nous voulons voir des vies changées, sanctifiées, habitées par toi. Je crois que nous sommes dans des temps nouveaux et que la nouveauté est là et qu'il ne faut pas la manquer. Nous ne voulons pas manquer et nous nous repentons parce que, tandis que je parle, certains se disent « Ouh là là, il y a du boulot. Ouf, il y a du nettoyage à faire. » Eh bien oui, d'accord, oui, oui. Oui, du nettoyage, oui. Mais toi, tu es merveilleusement bon et grand et tu vas nettoyer. Il y a 15 jours, quand Christophe a fait un appel sans dire exactement le but de cet appel, mais il y a quand même spontanément la moitié de l'Assemblée, peut-être même les deux tiers, je ne sais pas exactement, qui sont avancés sans savoir exactement pourquoi ils s'avançaient, mais ils savaient que Dieu était là. Moi aussi, j'étais de ceux-là. Et que ça valait la peine de s'avancer, parce que Dieu allait faire quelque chose. Et je crois qu'aujourd'hui, on pourrait aussi demander ça. Moi, j'aurais envie de dire, la plupart d'entre vous, je sais que vous êtes nés de nouveau, comme on dit. La plupart d'entre vous êtes nés de Dieu, comme dit l'apôtre Jean. Alors, c'est bien. C'est nécessaire. On ne peut pas obtenir le salut sans passer par cette nouvelle naissance. Donc, merci Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on en fait après, c'est ça? Est-ce que ça s'arrête là? Et puis, ben, je suis content d'être quelqu'un qui est sauvé. Bien sûr. Moi aussi. Et puis, voilà. On sait qu'il y a une force quand même qui est venue un peu en nous. On appelle la sanctification. Mais le Seigneur nous demande plus d'aller plus loin, par sa grâce, toujours par sa grâce. Et il dit à certains d'entre vous, est-ce que tu as reçu l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu mon esprit? Est-ce que tu vis par mon esprit? Est-ce que la puissance d'en haut est venue sur toi dans ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, donné par Jésus dans sa position céleste? Mais ça vient du Père, parce que tout vient du Père et tout retourne au Père. Est-ce que l'esprit du Père et du Fils, c'est le même esprit, est venu sur toi et ta famille? Est-ce que l'Église dont tu fais partie est entièrement dans cette condition-là? Est-ce que ton entourage dans ton quartier, dans ton village, dans ton milieu professionnel, ressent et discerne que quelque chose d'autre t'habite et qu'il... Certains d'entre eux auront envie de te poser des questions. D'où ça te vient? Seigneur, moi-même, je sens que j'ai besoin de ce que je viens de prêcher. J'ai vécu toutes les étapes que j'ai dites, mais il ne suffit pas d'avoir vécu les étapes. Il faut aussi les vivre tous les jours. Les vivre tous les jours. C'est pourquoi... Nous allons prier peut-être par petit groupe, pas très longtemps, quelques minutes. On pourrait se mettre peut-être par quatre, comme ça, trois, quatre, cinq. Là, vous retournez les chaises, si vous voulez, ou bien vous mettez debout. Et puis, vous priez, mais sérieusement, hein, les uns pour les autres. Et que ceux qui n'osent pas, moi, je vois des fois des gens, ils restent sur leur chaise, ils ne vont pas dans le petit groupe, parce qu'ils disent, oh, mais moi, de toute façon, je ne sais pas, je suis introverti, je suis timide, j'ose pas. Non, c'est fini, c'est de la foutaise. Hein. Arrêtons avec ça. Quand le Seigneur est là, on ouvre la bouche, on y va, et on prie avec les autres, et on se lève avec les autres. On ne se trouve pas des excuses, parce qu'il faut demander pardon de ce qu'on trouve des excuses. Je ne parle pas de ceux qui ne sont pas encore convertis, ça, c'est autre chose. Mais je parle de ceux qui sont convertis. Alors, allons-y, faisons des petits groupes, pas très longtemps. Peut-être 4 minutes, comme ça. Mais vous priez, nous prions, et dites, osez dire, oui, moi, si vous en voulez, dites, j'en veux. si vous voulez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Faites comme vous voulez. Mais allez-y. Oh, que ton esprit soit libéré en cet instant et tombe sur ceux qui sont prêts. Voilà, on va s'arrêter là. On a parlé de l'Ukraine. Est-ce que vous savez que la plus grande église d'Europe se trouve en Ukraine, avec, je ne sais plus si c'est entre 10 000 et 20 000 membres. Je crois bien que c'est près des 20 000, conduite par un pasteur africain. Bon, c'était vrai il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant, j'espère. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelques années, c'était le cas. C'était en Ukraine qu'on trouvait la plus grande église évangélique, évangélique d'Europe. Alors, si c'est possible en Ukraine, c'est aussi possible ici. Je ne sais pas quel rôle il joue maintenant. J'espère qu'il y a une force de prière énorme qui se dégage de telles églises. Que Dieu vous bénisse et aussi ceux qui ont suivi par streaming. Vous êtes autant concernés et prions aussi pour les autres églises de notre pays.